Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, troisième partie. Il la saisit sous les bras, la tint pliée sur sa poitrine, et repoussant violemment la porte du pied, la jeta dans le fauteuil vide. Puis, aussitôt, comme si ce grand effort eût dissipé en un moment tout son courage, il s'assit au hasard sur la première chaise rencontrée, blême. Et déjà, elle rampait vers lui, ses cheveux dénoués, ses mains jetées en avant, plus suppliante encore que ses yeux pâlis d'angoisse. « Ne me laisse pas, » répétait-elle, « ne me laisse pas, ne me mets pas dehors aujourd'hui. J'ai fait tout à l'heure un rêve. Oh, quel rêve !» On a fermé la porte de la cuisine. Timoléon est sorti. « Il y a là quelqu'un ?» murmura en écartant doucement sa maîtresse, le héros vaincu. Mais elle liait ses bras autour de sa poitrine. « Garde-moi, je suis folle, je n'ai jamais peur, c'est la première fois, c'est fini. » Il l'écarta de nouveau, l'étendit sur le divan. Elle se redressa tout de suite, ses joues étaient déjà roses. Elle répétait machinalement « C'est fini, c'est fini !» mais d'un autre accent. Cependant, Galet avait quitté la place. Il revint presque aussitôt soucieux. « Je n'y comprends rien, » fit-il. « La porte de la buanderie est ouverte, et la fenêtre de la cuisine aussi. Cependant, Timoléon n'est pas rentré. J'ai vu ses deux sabots sur les marches. » Il haussa le ton pour dire à sa maîtresse avec une affreuse grimace « Quelle folie tu m'as fait faire !» Elle sourit. « C'est la dernière. Je vais être sage. » Sacré Timoléon, la maison est comme un moulin à ma parole. De qui as-tu peur? J'ai cru un moment que c'était ma femme, répondit naïvement le grand homme de campagne. Il crut plus digne d'ajouter aussitôt, elle rentre ainsi quelquefois sans crier gare. Laisse ta femme en paix, répondit Mouchette, décidément calmée. Nous l'aurions vue. Je veux aussi te demander pardon. « J'ai été si désagréable, mon pauvre chat. Tu aurais bien fait de me laisser partir. Je serais revenu. J'ai besoin de toi, mon Minet. »« Oh, pas pour ce que tu penses !» s'écria-t-elle en lui prenant la main. « Nous n'allons pas nous brouiller pour un gosse de rien du tout, et qui ne viendra jamais au monde, je t'en donne ma parole. Je ne veux pas de scandale ici. Pour le risque, je m'en fiche. Non, j'ai besoin de toi. » Parce que tu es le seul homme à présent auquel je puis parler, sans mentir. » Comme il haussait les épaules. « Tu crois que ça n'est rien ?» reprit Mouchette. Elle parlait vite, vite, avec une fièvre charmante. « Eh bien, mon chéri, on voit que tu ne me ressembles guère. Quand j'étais petite, je mentais souvent, sans plaisir. À présent, c'est plus fort que moi. Devant toi, je suis ce que je veux. » La salle crampe, non pas de jouer son rôle, mais justement le rôle qui dégoûte. Pourquoi ne sommes-nous pas comme les bêtes qui vont, viennent, mangent, meurent, sans jamais penser au public? À la porte de la boucherie centrale, tu vois des bœufs manger leur foin à deux pas du mandrin, devant le boucher au bras rouge qui les regarde en riant. J'envie ça, moi. Et même, je te dirai plus. « Taratata !» interrompit le médecin de campagne. « Dis-moi plutôt, là, franchement, pourquoi, tout à l'heure... Voyons, tu parais te rendre très sagement, loyalement à mes raisons, tu parais résigné à demander à d'autres, je ne veux pas les connaître, je ne veux pas savoir leur nom, l'acte dangereux, discutable, dont je ne puis accepter la responsabilité. Tu t'en vas sans colère, avec une mine de chien battu, mais docile. Et soudain? Oh, oh, je te parais curieux, mais tu ne peux pas savoir, c'est ce que nous appelons un cas très intéressant. Soudain, pour une serrure fermée, une porte qui ne cède pas tout de suite, voilà que tu fais une crise de délire, de véritable délire, limitant « J'ai fait tout à l'heure un rêve, oh, quel rêve !» Je t'ai rattrapé au vol. Tu avais une mine si singulière. Où allais-tu? Tu veux le savoir? Mais tu ne me croiras pas. Dis toujours. J'allais me tuer, répondit tranquillement Mouchette. Il frappa violemment ses genoux du plat de la main. Tu te moques de moi? Ou si tu veux, poursuivit-elle, imperturbable, je voyais comme je te vois un coin de la mare du Vauroux près de la ferme sous les deux saules, où j'allais me jeter. Derrière, entre les arbres, on aperçoit les ardoises du château. Que veux-tu que je te dise? Ce sont des bêtises, je sais bien. J'étais folle. Sacrebleu! S'écria le médecin de campagne en se précipitant vers la porte. Cette fois-ci, on a marché là-haut, c'est son pas. Et, comme elle éclatait de rire, il la menaça du regard si terriblement qu'elle crut devoir étouffer le reste de sa gaieté dans son petit mouchoir. Elle entendit glisser ses savates jusqu'à l'escalier. Les premières marches grincèrent, puis le silence retomba. Il était de nouveau devant elle. « C'est Zelleda, » dit-il. « J'ai vu son sac de voyage dans le couloir du premier. Elle aura pris le train à 20h30 pour épargner la dépense d'une nuit d'hôtel. Comment n'ai-je pas prévu? Elle est là depuis 10 minutes, 20 minutes peut-être, sait-on. Phil !» Il trépignait d'impatience, bien que dans l'excès de son humiliation, il essaya de se composer une attitude. Mais Mouchette lui répondit froidement: « C'est ton tour d'être fou. Que crains-tu? C'est papa qui m'envoie. Je ne puis me sauver comme une voleuse, ce serait trop bête. D'ailleurs, la fenêtre de ta chambre donne sur la rue des Égroulettes. Elle me verra. Après 3 jours d'absence, grimper sans maudire, ce n'est pas naturel, ça. Nous a-t-elle entendu? Tant mieux. On n'entend jamais rien de précis à travers la porte. Ne discute pas, ris-lui au nez. Quand elle viendra, nous lui dirons gentiment bonjour. » Il l'écoutait convaincu. En un instant, sous les mains agiles de Mouchette, chaque objet reprit sa place accoutumée. Les coussins retrouvèrent leur rondeur élastique, les fauteuils tournèrent sagement le dos au mur, la pharmacie ferma ses portes, la lampe brilla, tranquille, sur son bonhomme d'abat-jour vert. Lorsque Mademoiselle Malorty se rassit, les murs eux-mêmes mentaient. Attendons maintenant, dit-elle. Attendons, répéta Galet. Son regard fit une dernière fois le tour de la pièce, et il le reporta rassuré sur sa maîtresse. À distance respectueuse de l'homme de science dans l'exercice de son sacerdoce, la jeune malade attentive se tenait prête à recevoir l'oracle infaillible. Comment ose-t-elle croiser si haut les genoux? Remarqua seulement Galet, perplexe. À présent qu'elle s'était tue, il sentait bien qu'il avait été tout à l'heure sensible, moins aux raisons de sa maîtresse qu'à sa voix et à son accent. « C'est enfantin, » se répétait-il, « enfantin, sa présence ici peut se justifier 100 fois. » Mais à la pensée de suivre bientôt la capricieuse enfant dans son mensonge, de tenir son rôle devant l'ennemie sceptique et sournoise, sa langue collait au palais. C'est alors que tout à coup, cherchant encore le regard de Mouchette, il ne le trouva plus. Les yeux perfides considéraient le mur au-dessus de lui, déjà mûr d'un nouveau secret. Il eut le pressentiment, la certitude d'un malheur désormais inévitable. Son vice était là, devant lui, en pleine lumière, évident, éclatant, et il avait voulu près de lui ce témoin irrécusable. Si la peur ne l'eût cloué sur place, il eût sans doute à ce moment jeté Mouchette par la fenêtre. Il eût sauté dessus comme on piétine une mèche allumée près de la soute aux poudres. Mais il était trop tard. L'affreuse résignation du lâche le livrait sans défense à sa familière ennemie. Et, avant qu'elle eût prononcé une parole, il l'entendit. Pourtant la voix qui rompit le silence fut claire et suave. « Crois-tu à l'enfer, mon chat ?»« C'est bien le moment de parler de bêtises, » répondit-il, conciliant. « Je t'en prie, garde au moins pour une meilleure occasion tes incompréhensibles plaisanteries. »« Ah là là, voyez-vous. Non, la crise est passée, rassure-toi. Tu finiras par m'enrager avec tes airs d'attendre le bourreau. Que risques-tu maintenant? Rien du tout.
Je ne crains que toi, dit Galet.
Oui, tu n'es pas un compagnon très sûr. Elle dédaigna de répondre et sourit.
Puis, après un long silence, la même voix calme et suave redit encore
« Réponds-moi tout de suite, mon chat. Crois-tu à l'enfer ?»«
Bien sûr que non » s'écria-t-il exaspéré.
« Jure-le. »
Il se résigna.
« Oui, je le jure. »«
Je savais bien, » fit-elle. « Tu ne crains pas l'enfer, et tu crains ta femme. Es-tu bête ?»«
Mouchette, tais-toi » supplia-t-il. « Où va-t'en ?»«
Où va-t'en, hein ? Tu regrettes bien de l'avoir tout à l'heure retenue, Mouchette. Elle y serait à présent dans la mare aux grenouilles, sa chère petite bouche pleine de boue, bien muette. Ne pleure pas, gros bébé. Tu vois bien, je parle tout bas, exprès. Vilain lâche d'homme, tu as peur d'elle et tu n'as pas peur de moi. »
Il supplia.
« Quel intérêt prends-tu à faire du mal ? »
« Aucun. En vérité, aucun. Je ne te veux absolument aucun mal. Seulement, pourquoi n'as-tu pas peur de moi ?»«
Tu es une bonne fille, Mouchette. »
« Sans doute, une bonne fille. Avec elle, tu ne partageras que le plaisir. L'as-tu prouvé tout à l'heure, oui ou non ?»«
Un enfant de Mouchette, fuis donc !»«
Il n'est pas de moi !» s'écria-t-il hors de lui.
« Supposons-le, je ne te demande pas de le reconnaître. »
« Non, il ne parlait pas.
Tu exigeais seulement de moi un acte que ma conscience réprouve. »
« Nous parlerons de ta conscience dans un moment, » répondit Mouchette. « En refusant de me rendre service, tu as fini de m'ouvrir les yeux. N'attends pas que je te cherche querelle. Je ne t'aime ni pour ta beauté, regarde-toi, ni pour ta générosité. Sans reproche, tu es plutôt rat. Qu'est-ce que j'aime donc en toi ? Ne me regarde pas avec des yeux ronds. Ton vice, tu vas dire, c'est une phrase de roman. Si tu savais ce que tu sauras bientôt, tu comprendrais que j'étais justement tombé tout en bas, à ton niveau. Nous sommes au fond du même trou. Pour toi, je n'ai pas besoin de mentir. Non, tu ne lis pas dans mon cœur. Tu crois que je me venge ? Non, mon petit, mais je puis être aujourd'hui tout à fait sincère. Eh bien, voilà le moment de parler ou jamais. Je te tiens dans l'angle du mur, mon pauvre chat. Tu ne peux m'échapper. Je te défie même d'élever la voix. Ainsi. » Elle parlait elle-même si bas qu'il penchait machinalement la tête d'un geste ingénu. L'éloquence familière, ce demi-silence, le pas tranquille de Zelléda au-dessus d'eux, la voix de Timoléon fredonnant à ses casseroles le refrain d'une chanson bête, achevaient de le rassurer. Toutefois, il n'osait pas encore lever les yeux vers le regard qu'il sentait posé sur lui. « Quel embêtement !» songeait-il. Mais le signe fatal était déjà écrit au mur. Mouchette respira fortement et reprit « Si je parle à présent, d'ailleurs, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Vois, nous nous aimons depuis des semaines et personne ne sait, personne. Mademoiselle Germaine par-ci, monsieur le député par-là, hein ? Sommes-nous bien cachés, bien clos ? Monsieur Galet fait l'amour avec une fille de 16 ans, qui s'en doute ? Et ta femme elle-même, avoue-le, vieux scélérat, tu la trompes ici, à son nez, à sa moustache, elle en a. C'est la moitié de ton bonheur, je te connais. Tu n'aimes pas l'eau claire. Ainsi, dans ma fameuse mare de Vauroux, je vois des bêtes très drôles, très singulières. Ça ressemble un peu à des 1000 pattes, mais plus longs. Un instant, tu les verras flotter à la surface limpide de l'eau. Puis, ils s'enfoncent tout à coup, et à leur place monte un nuage de boue. Eh bien, ils nous ressemblent. Entre les imbéciles et nous, il y a aussi ce petit nuage. Un secret. Un gros secret. Quand tu le sauras, comme on s'aimera.
Elle se rejeta aussitôt en arrière, riant d'un rire silencieux. « Cocasse !» dit Galet. Elle fit du bout des lèvres une grimace enfantine et le fixa un moment d'un air inquiet. Puis, son visage s'éclaira de nouveau. « C'est vrai que je parle trop, avoua-t-elle, par peur au fond. Je parle pour ne rien dire. Si Zelida entrait maintenant, serais-je seulement contente ou fâchée ? Attends, attends, écoute-moi bien d'abord. Le papa, ce n'est pas toi, non. Devine, c'est le marquis. Oui, oui, monsieur le marquis de Cadignan. » Cocasse, répéta Galet. Les lèvres de Mouchette tremblèrent. Baise-moi la main, dit-elle tout à coup. Oui, embrasse-moi la main. Je veux que tu me baises la main. Sa voix avait fléchi, exactement comme celle d'un acteur qui manque l'effet prévu, perd pied, sans tête. En même temps, elle appuyait sa paume sur la bouche de son amant. Puis elle s'écarta brusquement et dit avec une extraordinaire emphase « Tu viens de baiser la main qui l'a tuée. » « Tout à fait cocasse !» répéta pour la troisième fois M. Galet. Mouchette essaya d'un rire de mépris, mais l'éclat contenu en fut si cruel et si déchirant qu'elle se tut. « C'est de la démence !» dit posément le docteur de campagne. « Un autre que moi en reconnaîtrait ici les symptômes. Mais tu es une fille nerveuse, d'hérédité alcoolique, pubère depuis 2 ou 3 ans, souffrant d'une grossesse précoce. En un tel cas, ces accidents ne sont pas rares. Excuse-moi de parler ainsi. Je m'adresse à ta raison, à ton bon sens, parce que je sais que ces sortes de malades ne sont jamais absolument dupes de leur propre délire. Conviens-en, c'est une plaisanterie, seulement un peu poussée, une plaisanterie comme tout le monde peut en faire, une mauvaise plaisanterie. Une plaisanterie ? Finit-elle par bégayer. Une colère énorme battait à grands coups dans sa poitrine, mais elle l'étouffa. Le feu de l'orgueil déçu acheva de consumer ce qui restait en elle de la folle et cruelle adolescence. Elle se sentit tout à coup, dans son sein, le cœur insurmontable et dans sa tête l'intelligence froide et positive d'une femme, sœur tragique de l'enfant. « Ne va pas me manquer en un pareil moment, s'écria-t-elle, ou ce sera ton tour de pleurer. Crois ce que tu veux. Peut-être suis-je lasse de retenir ce secret, peut-être le remords ou simplement la peur. Pourquoi n'aurais-je pas peur comme tout le monde? Crois ce que tu veux, mais ne refuse pas ta part. D'ailleurs, j'en ai trop dit maintenant. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Quel jour? Le 27. Quelle heure? 3 quarts passé minuit, je vois encore l'aiguille. J'ai décroché son fusil, il était pendu au mur sous la glace. Non, je n'étais peut-être pas absolument sûr qu'il fût chargé. Il l'était. J'ai tiré quand le bout du canon l'a touché. Il a failli tomber sur moi. Mes souliers étaient pleins de sang, je les ai lavés dans la mare. J'ai aussi lavé mes bas à la maison dans ma cuvette. Voilà, es-tu sûr maintenant ? Conclut-elle avec une assurance naïve. « Veux-tu encore d'autres preuves ?» Elle n'en avait donné aucune. « Je t'en donnerai, interroge-moi seulement. » Chose incroyable. Pas un instant, Galet ne douta qu'elle eût dit vrai. Dès les premiers mots, il l'avait cru, tant le regard en dit plus long que les lèvres. Mais la première surprise fut si forte qu'elle paralysa jusqu'à ses manifestations de la terreur que Mouchette épiait déjà dans le visage de son amant. La détresse du lâche, à son paroxysme, si elle n'éclate au dehors, surexcite en dedans toutes les forces de l'instinct, donne à la brute à demi-lucide une puissance presque illimitée de dissimulation, de mensonge. Ce n'était pas l'horreur du crime qui clouait Galet sur place, mais en un éclair, il s'était vu lié pour toujours à son affreuse amie, complice non de l'acte, mais du secret. Comment livrer ce secret sans se livrer, puisqu'il était trop tard pour en arrêter l'aveu, il dirait non. Quelle autre ressource? Non et non, à l'évidence même. Non, 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 hurlait la peur. Et déjà, il eût voulu asséner ce non, comme un poing fermé sur la terrible bouche accusatrice. Seulement, seulement, l'enquête était close, le non-lieu rendu. Seulement, savait-il tout? Mouchette gardait-elle quelque preuve? Qu'elle se livra, il était capable de détourner le coup? L'entêtement ordinaire au juge, la bizarrerie du crime, l'oubli qui déjà recouvrait la mémoire d'un homme jadis craint ou détesté, l'autorité de la famille Malorty, par-dessus tout, le témoignage du médecin parlementaire. C'en était assez pour emporter les scrupules défaillants d'un magistrat. L'exaltation de Mouchette et les probables divagations de sa colère rendaient vraisemblable l'hypothèse d'une crise de démence dont Galet ne doutait point d'ailleurs qu'elle éclata bientôt pour de bon. Mais encore, lucide ou folle, que dirait la perfide avant que ne se fût refermée sur elle la porte capitonnée du cabanon? Si rapidement que se succédassent ces hypothèses contradictoires dans la pensée du malheureux, il retrouva sa finesse paysanne pour dire, sans ironie, « Je ne voulais pas te mettre en colère. Je ne juge pas ton acte. S'il a été toutefois commis, le métier de séducteur d'enfants de 15 ans a ses risques. Mais je t'interrogerai, puisque tu m'en pries. Tu parles à un ami, à un confesseur. » Il baissait la voix malgré lui avec l'accent de l'angoisse. « Tu n'as donc point couché chez toi dans la nuit du 26 au 27 ?»« Cette question !»« Alors, ton père ?» « Il dormait, bien sûr, » répondit Mouchette. « De sortir sans être vu, ce n'est pas malin. »« Et de rentrer ?»« De rentrer aussi, dame, à 3 heures du matin, il n'entendrait pas Dieu tonner. » »« Mais le lendemain, ma chérie, quand ils ont su... » »« Ils ont cru au suicide, comme tout le monde. Papa m'a embrassé. Il avait vu monsieur le marquis la veille. Monsieur le marquis n'avait rien avoué. » « Il a pris peur tout de même, » a dit papa, « et il a dit aussi, « pour le mioche, on s'arrangera, Galet a le bras long, car il voulait te demander conseil, mais je n'ai pas voulu. »« Tu n'as donc rien avoué non plus ?»« Non. » »« Et sitôt l'acte commis, tu t'es sauvé ?»« J'ai couru seulement jusqu'à la mare pour laver mes souliers. »« Tu n'as rien pris ?» Rien emporté. Qu'est-ce que j'aurais pris? Et qu'as-tu fait de tes souliers? Je les ai brûlés avec mes bas dans notre four. J'ai examiné le cadavre, dit encore Galet. Le suicide semblait évident. Le coup avait été tiré si près. Sous son menton, oui, dit Mouchette. J'étais tellement plus petite que lui et il avançait tout droit. Il n'avait pas peur. Le défunt avait-il en sa possession des objets, des lettres? Des lettres, fit Mouchette en haussant dédaigneusement les épaules. Pourquoi faire? Cela paraît vraisemblable, pensait Galet. Et il entendit avec surprise sa propre voix répéter tout haut sa pensée. Tu vois, triompha Mouchette, ça pesait vraiment trop dans ma tête. « Elle peut venir maintenant, ta Zelleda, tu vas voir, je serai sage comme une image. »« Bonjour, Germaine !» Elle se levait pour faire devant la glace une révérence. « Bonjour, madame !» Mais le médecin de campagne ne sut pas dissimuler plus longtemps. Contracté par la peur, il se détendit tout à coup et laissa échapper sa ruse comme un animal pressé par les chiens. Enfin libre, lâche l'urine. « Ma fille, tu es folle !» dit-il dans un long soupir. « Hein? Quoi ? » s'écria Mouchette. « Tu... » « Je ne crois pas un mot de cette histoire-là. » « Ne le répète pas deux fois, » dit-elle entre ses dents. Il agitait la main en souriant comme pour l'apaiser. « Écoute, Philogone, » reprit-elle d'une voix suppliante, et l'expression de son visage changeait plus vite même que la voix. « J'ai menti tout à l'heure, je faisais la brave. C'est vrai que je ne peux plus vivre, ni respirer, ni voir seulement le jour à travers cet affreux mensonge. Voyons, J'ai tout dit maintenant. Jure-moi que j'ai tout dit.
Tu as fait un vilain rêve, Mouchette.
Elle supplia de nouveau. Tu me rendras folle. Si je doute de cela aussi, que croirai-je?
Mais qu'est-ce que je dis, reprit-elle d'une voix cette fois perçante. Depuis quand refuse-t-on de croire la parole d'un assassin qui s'accuse et qui se repent?
Car je me repens. Oui, oui, je te ferai ce tour de me repentir, moi qui te parle.
Et si tu m'en défies, j'irai leur raconter à tous mon rêve, ce fameux rêve, ton rêve.
Elle éclata de rire.
Galet reconnut ce rire et blêmit.
J'ai été trop loin, bégaya-t-il. C'est bon, Mouchette, c'est bon, n'en parlons plus.
Elle consentit d'abaisser le ton.
Je t'ai fait peur, dit-elle.
Un peu, fit-il. Tu es en ce moment si nerveuse, si impulsive.
Laissons cela, j'ai mon opinion faite à présent.
Elle tressaillit.
En tout cas, tu n'as rien à craindre. Je n'ai rien vu, rien entendu.
D'ailleurs, ajouta-t-il imprudemment, moi ni personne.
Cela signifie
que, vrai ou fausse, ton histoire ressemble à un rêve.
C'est-à-dire,
qui t'a vu sortir? Qui t'a vu rentrer? Quelle preuve a-t-on? Pas un témoin, pas une pièce à conviction, pas un mot écrit, pas même une tache de sang. Suppose que je m'accuse moi-même. Nous serions manche à manche, ma petite, pas de preuve.
Alors il vit Mouchette se dresser devant lui, non pas livide, mais au contraire le front, les joues et le cou même, d'un incarnat si vif que sous la peau mince des tempes, les veines se dessinèrent toutes bleues. Les petits poings fermés le menaçaient encore quand le regard de la misérable enfant n'exprimait déjà plus qu'un affreux désespoir, comme un suprême appel à la pitié. Puis, cette dernière lueur s'éteignit, et le seul délire vacilla dans ses yeux. Elle ouvrit la bouche et cria. Sur une seule note, tantôt grave et tantôt aiguë, cette plainte surhumaine retentit dans la petite maison, déjà pleine d'une rumeur vague et de pas précipités. D'un premier mouvement, le médecin de campagne avait rejeté loin de lui le frêle corps roidi, et il essayait à présent de fermer cette bouche, d'étouffer ce cri. Il luttait contre ce cri, comme l'assassin lutte avec un cœur vivant qui bat sous lui. Si ses longues mains eussent rencontré par hasard le cou vibrant, Germaine était morte, car chaque geste du lâche affolé avait l'air d'un meurtre. Mais il n'étreignait en gémissant que la petite mâchoire, et nulle force humaine n'en eût desserré les muscles. Zéléda et Timoléon entrèrent en même temps.
Aidez-moi, supplia-t-il, mademoiselle Malorty, une crise de démence furieuse, en pleine crise. Aidez-moi, nom de Dieu!
Timoléon prit les bras de Mouchette et les maintint en croix sur le tapis. Après une courte hésitation, Madame Galet saisit les jambes. Le médecin de campagne, les mains enfin libres, jeta sur le visage de la folle un mouchoir imbibé d'éther. L'affreuse plainte, d'abord assourdie, finit par s'éteindre tout à fait. L'enfant, vaincu, s'abandonna.
« Cours chercher un drap, » dit Galet à sa femme. On y roula Mademoiselle Malorty, désormais inerte.
Timoléon courut prévenir le brasseur. Le soir même, elle était transportée en automobile à la maison de santé du docteur Duchemin. Elle en sortit un mois plus tard, complètement guérie, après avoir accouché d'un enfant mort.
Première partie. La tentation du désespoir. Chapitre 1er. Mon cher chanoine, mon vieil ami, conclut l'abbé de Mange,
Que vous dire encore? Il m'est difficile de tenir aujourd'hui vos scrupules pour légitimes, et néanmoins ce désaccord me pèse. Je dirais volontiers que votre finesse s'exerce ici sur des riens, si je ne connaissais assez votre prudence et votre fermeté. Mais c'est donner beaucoup d'importance à un jeune prêtre mal léché. » L'abbé Menou-Segré ramena frileusement sur ses genoux la couverture et tendit de loin ses mains vers l'âtre sans répondre. Puis il dit après un long silence, et non pas sans une malice secrète qui fit un instant briller ses yeux, « De tous les embarras de l'âge, l'expérience n'est pas le moindre, et je voudrais que la prudence dont vous parlez n'eût jamais grandi aux dépens de la fermeté. Sans doute, il n'y a pas de terme aux raisonnements et aux hypothèses, mais vivre, d'abord, c'est choisir. Avouez-le, mon ami, les vieilles gens craignent moins l'erreur que le risque. » « Comme je vous retrouve, dit tendrement l'abbé de Mange, que votre cœur a peu changé. Il me semble que je vous écoute encore dans notre cour de Saint-Sulpice, lorsque vous discutiez l'histoire des mystiques bénédictins, Sainte Gertrude, Sainte Mechtilde, Sainte Hildegarde, avec le pauvre père de l'Antivie. Vous souvenez-vous? Que me parlez-vous du troisième état mystique? Vous disait-il. De tous ces messieurs, vous êtes d'abord le plus friand au réfectoire et le mieux vêtu. Je me souviens, dit le curé de campagne, et tout à coup sa voix si calme eut un imperceptible fléchissement. Tournant la tête avec peine, dans l'épaisseur des coussins, vers la grande pièce déjà pleine d'ombre, et montrant d'un regard les meubles chéris. « Il fallait s'échapper, dit-il. Il faut toujours s'échapper. » Mais aussitôt sa voix se raffermit, et de ce même ton d'impertinence dont il aimait à se railler lui-même, à déconcerter sa grande âme, il ajouta « Rien de meilleur qu'une crise de rhumatisme pour vous donner le sens et le goût de la liberté. » « Revenons à notre protégé, » dit soudain l'abbé de Mange, avec brusquerie et sans d'abord oser lever les yeux sur son vieil ami. « Je dois vous quitter à 5 heures, je le reverrai volontiers. » « À quoi bon ?» répondit tranquillement l'abbé Menou-Segré. « Nous l'avons bien vu assez pour un jour. Il a crotté mon pauvre vieux Smyrne et failli briser les pieds de la chaise qu'il a choisie la plus précieuse et la plus fragile avec son ordinaire à propos. Que vous faut-il de plus? Voulez-vous encore le peser, le toiser comme un conscrit? Voyez-le d'ailleurs, si cela vous plaît. Dieu sait pourtant quel souci me donne au long d'une semaine à travers mes bibelots si sottement aimés, ce grand pâteau tout en noir. » Mais l'abbé de Mange connaît trop le compagnon de sa jeunesse pour s'étonner de son humeur. Jadis, jeune secrétaire particulier de Monseigneur de Targe, il n'a rien ignoré de certaines épreuves qu'a surmontées, une par une, le clair et lucide génie de l'abbé Menou-Segré. Un esprit d'indépendance farouche, à bon sens pour ainsi dire irrésistible, mais dont l'exercice ne va pas toujours sans une apparente cruauté, rendu plus sensible au délicat par le raffinement de la courtoisie, le dédain des solutions abstraites, un goût très vif de la spiritualité la plus haute, mais difficile à satisfaire par la seule spéculation, éveillèrent d'abord la méfiance de l'évêque. L'influence discrète du jeune Demange, et surtout l'irréprochable distinction du futur doyen de campagne, alors vicaire à la cathédrale, lui valurent, trop tard, les bonnes grâces de celui qui se laissait appeler, volontiers, le dernier prélat gentilhomme, et qui mourut l'année suivante, laissant à Monseigneur Papouin, candidat favori du ministre des Cultes, une succession délicate. L'abbé Menou-Segré fut d'abord poliment tenu à l'écart, puis franchement disgracié, après le premier échec aux élections législatives, du député libéral pour lequel il avait sans doute montré peu de zèle. Le triomphe du docteur radical Gallet porta le dernier coup à cette carrière sacerdotale. Nommé à la cure, d'ailleurs enviée, de campagne, il se résigna dès lors à servir paisiblement la paix religieuse dans le diocèse, les deux parties ayant accoutumé de s'entendre à ses dépens tour à tour dénoncé par le ministre et désavoué par l'évêque. Ce jeu l'amusait, et il en goûtait mieux que personne l'agréable balancement. Héritier d'une grande fortune, qu'il administrait avec sagesse, la destinant tout entière à sa nièce Segret, vivant de peu, non pas sans noblesse, grand seigneur exilé qui rapporte au fond de la province quelque chose des façons et des mœurs de la cour, curieux de la vie d'autrui, et pourtant le moins médisant, habile à faire parler chacun, tâtant les secrets d'un regard, d'un mot en l'air, d'un sourire. Puis, le premier à demander le silence, à l'imposer, toujours admirable de tact et de spirituelle dignité, convive exquis, gourmand par politesse, bavard à l'occasion par condescendance et charité, si parfaitement poli que les simples curés de son doyenné, pris au piège, le tinrent toujours pour le plus indulgent des hommes, d'un rapport agréable et sûr, d'une perspicacité sans tranchant, tolérant par goût, même sceptique, et peut-être un peu suspect. « Mon ami, répondit doucement l'abbé de Mange, je vous vois venir, vous tournez contre votre vicaire un coup qui m'était destiné. Secrètement, vous m'accusez d'incompréhension, de parti pris, que sais-je ? Arrière-pensée bien charitable un jour de Noël, et contre un pauvre compagnon mis à la retraite qui fera 3 lieues ce soir avant de retrouver son lit et pour l'amour de vous. Suis-je vraiment capable de juger légèrement d'un scrupule que vous m'avez confié ? Mais, comme jadis, votre conviction veut tout forcer, emporte d'assaut les gens, vous y mettez seulement plus de grâce. Vous me sommez de statuer, et les éléments dont je dispose... Qui vous parle d'éléments ? Interrompit le doyen de campagne. Pourquoi pas une enquête et des dossiers ? Quand il s'agit de gagner ou de perdre une bataille, on manœuvre avec ce qu'on a sous la main. Je ne vous ai pas appelé tout le temps que j'ai moi-même pesé le pour et le contre, mais dès lors que ma certitude... Bref, vous attendez de moi que je vous approuve ? Exactement, répondit le vieux prêtre, imperturbable. Une certaine audace est dans ma nature, et ma vertu est si petite, ma vieillesse si lâche, je suis si bêtement attaché à mes habitudes, à mes manies, à mes infirmités même, que j'ai grand besoin à l'instant décisif du regard et de la voix d'un ami. Vous m'avez donné l'un et l'autre, tout va bien, le reste me regarde. Ô tête obstinée, fit l'abbé de Mange, vous voudriez me faire taire. Quand je serai de nouveau loin de vous, cette nuit même, je prierai à vos intentions en aveugle, et je n'aurai jamais prié de si bon cœur. En attendant, devriez-vous me battre, je résumerai pour le repos de ma conscience notre entretien. J'en chercherai la conclusion. Laissez-moi dire, s'écria-t-il sur un geste d'impatience du curé de campagne. Je ne vous tiendrai pas longtemps. J'en étais aux éléments du dossier. J'y retourne. Sans doute je n'attache pas beaucoup d'importance aux notes du séminaire. À quoi bon y revenir ? Dit l'abbé Menou-Segret. Elles sont médiocres, franchement médiocres. Mais Dieu sait dans quel sens, et si c'est la médiocrité de l'élève qu'elles prouvent, ou du maître. Voici néanmoins le passage d'une lettre de Monseigneur Papoint que je ne vous ai point lue. Ayez seulement l'obligeance de me donner mon portefeuille, là, au coin de mon bureau, et d'approcher un peu la lampe. » Il parcourut d'abord la feuille du regard, en souriant, la tenant tout près de ses yeux myopes. « Je n'ose vous proposer le seul qui me reste, ordonné depuis peu, dont monsieur l'archiprêtre, à qui je l'ai donné, ne sait que faire, plein de qualités sans doute, mais gâté par une violence et un entêtement singuliers, sans éducation ni manière, d'une grande piété, plus zélé que sage, pour tout dire, encore assez mal dégrossi. Je crains qu'un homme tel que vous, ici un petit trait d'usage d'ironie épiscopale, Je crains qu'un homme tel que vous ne puisse s'accommoder d'un petit sauvage qui, 20 fois le jour, vous enfoncera malgré lui. »
Qu'avez-vous répondu ? Demanda l'abbé de Mange.
À peu près ceci. S'accommoder n'est rien, monseigneur. Il suffit que j'en puisse tirer parti ou quelque chose d'approchant.
Il parlait sur le ton d'une déférence malicieuse, et son beau regard riait avec une tranquille audace.
Enfin, dit le vieux prêtre impatient, de votre propre aveu, le bonhomme répond au signalement qu'on vous en avait donné.
Il est pire, s'écria le doyen de campagne, 1000 fois pire. D'ailleurs, vous l'avez vu, sa présence dans une maison si confortable est une offense au bon sens, certainement. Je vous fais juge. Les pluies d'automne, le vent d'équinoxe qui réveille mes rhumatismes, le poêle surchauffé qui sent le suif bouilli, les semelles crottées des visiteurs sur mes tapis, les feux de salve débattus d'arrière-saison, c'est déjà bien assez pour un vieux chanoine. À mon âge, on attend le bon Dieu en espérant qu'il entrera sans rien déranger un jour de semaine. Hélas, ce n'est pas le bon Dieu qui est entré, mais un grand garçon aux larges épaules, d'une bonne volonté ingénue, à faire grincer des dents. Plus assommant encore d'être discret, de dérober ses mains rouges, d'appuyer prudemment ses talons ferrés, d'adoucir une voix faite pour les chevaux et les bœufs. Mon petit s'éterre le flair avec dégoût. Ma gouvernante est lasse de détacher ou de ravauder celle de ces deux soutanes qui gardent un aspect décent. D'éducation, pas l'ombre. De science, guère plus qu'il n'en faut pour lire passablement le bréviaire. Sans doute, il dit sa messe avec une piété louable, mais si lentement, avec une application si gauche, que j'en sue dans ma stalle où il fait pourtant diablement froid. Aux seules pensées d'affronter en chair un public aussi raffiné que le nôtre, il a paru si malheureux que je n'ose le contraindre, et continue de mettre à la tortue ma pauvre gorge. Que vous dire encore? On le voit courir dans les chemins boueux tout le jour, fait comme un cheminot, prêter la main au charretier, dans l'illusion d'enseigner à ces messieurs un langage moins offensant pour la majesté divine. Et son odeur, rapportée des étables, accommode les dévotes. Enfin, je n'ai pu lui apprendre encore à perdre avec une bonne grâce une partie de tric-trac. À 9 heures, il est déjà ivre de sommeil, et je dois me priver de cet divertissement. Vous en faut-il encore, est-ce assez?
Si c'est là les grandes lignes de vos rapports à l'évêché, conclut simplement l'abbé de Mange, je le plains.
Le sourire du doyen de campagne s'effaça aussitôt, et son visage, toujours d'une extrême mobilité, se glaça.
« C'est moi qu'il faut plaindre, mon ami, » dit-il. Sa voix eut un tel accent d'amertume, d'espérance inassouvie, qu'elle exprima d'un coup toute la vieillesse, et la grande salle silencieuse fut un moment visitée par la majesté de la mort.
L'abbé de Mange rougit.
« Est-ce si grave, mon ami ? » fit-il avec une touchante confusion, une ferveur d'amitié vraiment exquise. « Je crains de vous avoir blessé, sans toutefois savoir comment. » « Mais déjà, monsieur Menou-Segret,
me blesser, moi ? » s'écria-t-il. « C'est moi qui, sottement, vous fais de la peine. Ne mêlons pas nos petites affaires à celles de Dieu. »
Il se recueillit une minute sans cesser de sourire.
« J'ai trop d'esprit, cela me perd. » J'aurais mieux à faire que vous proposer des énigmes et m'amuser de votre embarras.
Ah, mon ami, Dieu nous propose aussi des énigmes.
Je menais une vie tranquille, ou plutôt je l'achevais tout doucement, depuis que ce lourdeau est entré ici dedans. Il tire tout à lui sans y songer, ne me laisse aucun repos. Sa seule présence m'oblige à choisir. Oh, d'être sollicité par une magnifique aventure, quand le sang coule si rare et si froid, c'est une grande et forte épreuve.
Si vous présentez les choses ainsi, dit l'abbé de Mange, je vous dirai seulement, votre vieux camarade réclame sa part de votre croix.
Il est trop tard, continua le curé de campagne, toujours souriant. « Je la porterai seule. »
Mais à vous dire vrai, en conscience, reprit l'abbé de Mange, je n'ai rien vu dans ce jeune prêtre qui vaille de jeter dans le trouble un homme tel que vous. Ce que j'en ai appris m'embarrasse sans me persuader. L'espèce est commune de ces vicaires aux ailes indiscrets, faits pour d'autres travaux plus durs, et qui, dans les premières années de leur sacerdoce, gaspillent un excès de force physique que la contrainte du séminaire. N'ajoutez rien, s'écria en riant M. Menou-Segret. Je sens que je vais vous détester. Doutez-vous que je me sois déjà proposé cette objection? J'ai tâché, bon gré mal gré, de me payer d'une telle monnaie. On ne se soumet pas sans lutte à une force supérieure dont on ne trouve pas le signe en soi qui vous reste étrangère. La brutalité me rebute, et je serai le dernier à me laisser prendre à un appât si grossier. Certes, je ne suis pas une femmelette. Nous avons été rudes en notre temps, mon ami, bien que les sots n'en aient rien su. Mais il y a ici autre chose. » Il hésita, et lui aussi, ce vieux prêtre, il rougit. « Je ne prononcerai pas le mot. Je craindrai de vous, je ne sais quoi, qui, par avance, me serre le cœur. Oh, mon ami, j'étais en repos. Je me résignais. La résignation n'était douce. Je n'ai jamais désiré les honneurs. Mon goût n'est pas de l'administration, mais du commandement. J'aurais souhaité qu'on voulût bien m'utiliser. N'importe, c'était fini, j'étais trop las. Une certaine bassesse intellectuelle, la méfiance ou la haine du grand que ces malheureux appellent prudence, m'avait rempli d'amertume. J'ai vu poursuivre l'homme supérieur comme une proie. J'ai vu émietter les grandes âmes. Néanmoins, j'ai l'horreur de la confusion, du désordre, le sens de l'autorité, de la hiérarchie. J'attendais qu'un de ces méconnus dépendît de moi, que j'en fusse comptable à Dieu. Cela m'avait été refusé, je n'espérais plus. Et soudain, quand la force me va manquer, la déception vous sera cruelle, dit lentement l'abbé de Mange. D'un autre que vous, cette illusion serait sans danger, mais hélas, je connais assez que vous ne vous engagez jamais à demi. Vous bouleverserez votre vie, et je le crains, celle d'un pauvre homme simple qui vous suivra sans vous comprendre. Toutefois, la paix du Seigneur est dans vos yeux. Il fit un geste d'abandon, marquant son désir de clore un singulier entretien. L'abbé Menou-Segret le comprit. « L'heure passe, » dit-il en tirant sa montre. « Je suis désolé que vous ne puissiez passer avec moi cette nuit de Noël. Vous trouverez dans la voiture la bonbonne de vieille eau-de-vie. Je l'ai fait emballer avec beaucoup de soin, mais le chemin est mauvais et vous ferez sagement d'y veiller. » Il s'interrompit tout à coup. Les deux vieux prêtres se regardèrent en silence. On entendit sur la route un pas égal et pesant. « Excusez-moi, » fit enfin le curé de campagne, avec un visible embarras. « Je dois savoir si mon confrère de Deline a terminé les confessions et si tout est prêt pour la cérémonie de cette nuit. Voulez-vous seulement me prêter votre bras? Nous allons traverser la salle et j'irai vous mettre en voiture. » Il appuya sur un timbre et sa gouvernante parut. « Priez M. Donissant de venir prendre congé de M. l'abbé de Mange, » dit-il sèchement. « Monsieur l'abbé, » bégaya-t-elle, « je pense que M. l'abbé ne peut guère, au moins pour l'instant. »«
Ne peut guère ? » ?»«
C'est-à-dire, les couvreurs parlaient de laisser l'ouvrage en plan, de revenir après les fêtes du Nouvel An. »
« Notre clocher a besoin de réparation, en effet, » expliqua le doyen de campagne.
« La charpente a failli céder aux pluies d'automne. J'ai dû faire appel à l'entrepreneur de Mauvert et embaucher sur place des ouvriers sans expérience pour un travail, en somme, dangereux. Monsieur Donissant, » Il se tourna vers la gouvernante
et dit sur le même ton « Priez-le de descendre tel quel, cela ne fait rien. » « Monsieur Denisant, reprit-il dès que la vieille femme eut disparu, m'a demandé la permission de prêter la main. Oh, il ne la prête pas à demi. Je l'ai vue la semaine dernière, un matin, au haut des échelles, sa pauvre culotte collée aux genoux par la pluie, guidant les madriers, criant des ordres à travers les rafales, et visiblement plus à l'aise sur son perchoir que dans sa stalle du grand séminaire, un jour d'examen trimestriel. Il a sans doute recommencé aujourd'hui. « Pourquoi l'appelez-vous ? » dit l'abbé de Mange. « Pourquoi l'humilier ? À quoi bon ?» L'abbé Menou-Segré éclata de rire, et posant la main sur le bras de son ami. « J'aime à vous confronter, » fit-il. « J'aime à vous voir face à face. J'y mets probablement un peu de malice, mais c'est la dernière fois peut-être. Et d'ailleurs, au bout de cette malice, il y a un sentiment très vif et très tendre, que je vous dois de la miséricorde de Dieu, de sa divine suavité. Qu'elle est donc forte et subtile, qu'elle embrasse donc étroitement la nature, cette grâce qui, par une voie si différente, sans les contraindre, rassemble doucement vos deux âmes à l'unité, à la réalité d'un seul amour, que la ruse du diable paraît vaine, en somme, dans sa laborieuse complication. « Je le crois avec vous, » dit l'abbé de Mange. Pardonnez-moi encore ceci qui vous paraîtra bien commun. Je crois que le chrétien de bonne volonté se maintient de lui-même dans la lumière d'en haut, comme un homme dont le volume et le poids sont dans une proportion si constante et si adroitement calculée qu'il surnage dans l'eau s'il veut bien seulement y demeurer en repos. Ainsi, n'était certaine destinée singulière, j'imagine nos saints ainsi que des géants puissants et doux dont la force surnaturelle se développe avec harmonie, dans une mesure et selon un rythme que notre ignorance ne saurait percevoir, car elle n'est sensible qu'à la hauteur de l'obstacle, et ne juge point de l'ampleur et de la portée de l'élan. Le fardeau que nous soulevons avec peine, en grinçant et grimaçant, l'athlète le tire à lui comme une plume, sans que tressaille un muscle de sa face, et il apparaît à tous frais et souriant. Je sais que vous m'opposerez sans doute l'exemple de votre protégé. Me voici, monsieur le chanoine, dit derrière eux une voix basse et forte. Ils se retournèrent en même temps. Celui qui fut depuis le curé de Limbre était là, debout, dans un silence solennel. Au seuil du vestibule obscur, sa silhouette, prolongée par son ombre, parut d'abord immense, puis, brusquement, la porte lumineuse refermée, petite, presque chétive. Ses gros souliers ferrés, essuyés en hâte, étaient encore blancs de mortier. Ses bas et sa soutane criblés d'éclaboussures, et ses larges mains, passées à demi dans sa ceinture, avaient aussi la couleur de la terre. Le visage, dont la pâleur contrastait avec la rougeur hâlée du cou, ruisselait de sueur et d'eau tout ensemble, car, au soudain appel de M. Menou-Segré, il avait couru se laver dans sa chambre. Le désordre, ou plutôt l'aspect presque sordide de ses vêtements journaliers, était rendu plus remarquable encore par la singulière opposition d'une douillette neuve, raide d'après, qu'il avait glissée avec tant d'émotion qu'une des manches se retroussait risiblement sur un poignet noueux comme un cep. Soit que le silence prolongé du chanoine et de son hôte acheva de le déconcerter, soit qu'il eût entendu, à ce que pensa plus tard le doyen de campagne, les derniers mots prononcés par M. de Mange, son regard, naturellement appuyé ou même anxieux, prit soudain une telle expression de tristesse, d'humilité si déchirante, que le visage grossier en parut tout à coup resplendir. « Vous ne deviez pas vous déranger, » dit avec pitié M. de Mange. « Je vois que vous ne perdez pas votre temps, que vous ne boudez pas à la besogne. Je suis néanmoins content d'avoir pu vous dire adieu. » Ayant fait un signe amical de la tête, il se détourna aussitôt avec une indifférence sans doute affectée. Le chanoine le suivit vers la porte.
Ils entendirent dans l'escalier le pas pesant du vicaire, un peu plus pesant que d'habitude peut-être. Dehors, le cocher, transi de froid, faisait claquer son fouet. « Je suis fâché de vous quitter si tôt, » dit l'abbé de Mange sur le seuil. « Oui, j'aurais aimé, j'aurais particulièrement aimé passer cette nuit de Noël avec vous. Cependant, je vous laisse à plus puissant et plus clairvoyant que moi, mon ami. La mort n'a pas grand-chose à apprendre aux vieilles gens, mais un enfant dans son berceau. Et quel enfant ! Tout à l'heure, le monde commence. » Il descendait le petit perron côte à côte. L'air était sonore jusqu'au ciel. La glace craquait dans les ornières. Tout est à commencer, toujours. Jusqu'à la fin, dit brusquement M. Menou-Segret, avec une inexprimable tristesse. Le tranchant de la bise rougissait ses joues, cernait ses yeux d'une ombre bleue, et son compagnon s'aperçut qu'il tremblait de froid. « Est-ce possible ? » s'écria-t-il. « Vous êtes sorti sans manteau et tête nue par une telle nuit ?» Mieux qu'aucune parole, en effet, cette imprudence du curé de campagne marquait un trouble infini. Et à la plus grande surprise encore de l'abbé de Mange, ou, pour mieux dire, à son indicible étonnement, il vit, pour la première fois, pour une première et dernière fois, une larme glissée sur le fin visage familier. « Adieu, Jacques, » dit le doyen de campagne en s'efforçant de sourire. « S'il y a des présages de mort, un manquement si prodigieux à mes usages domestiques, un pareil oubli des précautions élémentaires est un signe assez fatal. » Il ne devait plus se revoir.